Vous écoutez
RMC. RMC, le week-end des experts.
Il est temps maintenant de faire connaissance de façon plus précise avec un ordinateur.
9h-10h, votre vie numérique.
Certaines inventions ont bouleversé nos vies à jamais.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Encore une fois, une très très belle année 2021. Sincèrement, on vous souhaite plein de réussite, plein de bonheur, la santé aussi. Espérons que cette année 2021 soit un petit peu plus clémente que l'année que l'on vient de vivre. Même si tout n'a pas été à jeter en 2020. Mais c'est vrai qu'on a eu des moments quand même un peu compliqués.
Bah, c'est-à-dire que cette pandémie a aussi propulsé la tech. Alors on aurait aimé que ça se fasse dans un autre contexte.
Mais est-ce qu'un autre contexte aurait permis de faire propulser la tech aussi rapidement ?
C'est toujours ça. Voilà, y a des conséquences plus ou moins positives toujours à des catastrophes. Et voilà. C'est vrai que je pense que ça a permis de familiariser beaucoup de gens avec la tech, notamment les systèmes de visioconférence. Et ça a montré à beaucoup de monde que la visioconférence, quand ça marchait, c'était quand même pas mal du tout.
Bien sûr.
Et l'importance, d'ailleurs, l'importance des infrastructures aussi, d'avoir la fibre, d'avoir une bonne connexion Internet. Et c'est là où on voit qu'aujourd'hui, Internet, c'est vraiment l'électricité.
Tout à fait.
C'est pareil.
Et voilà, avec ce plan, on va dire, monstrueux de très très haut débit partout en France, avec, vous l'avez vu, l'installation de la fibre à pas de charge de la part du gouvernement, de la part de tous les opérateurs. Avec des objectifs qui sont impressionnants. D'ici 2025, je crois, toute la France sera fibrée.
C'est l'objectif,
quasi à 100%.
Mais d'ailleurs, on a souvent des réflexions d'auditeurs et ils ont tout à fait raison en nous disant oui, enfin chez moi c'est encore loin, je suis un peu exclu. Alors c'est facile de notre part de dire ça de Paris où évidemment on est fibré de partout. Mais par exemple le téléphone, certains réseaux cuivrés, ça a pris un demi-siècle.
Bien sûr.
Donc là on fait ça en
pas de charge.
15 ans, 20 ans.
Voilà, c'est ça. C'est
donc,
bien.
C'est déjà pas mal et j'espère que les objectifs seront tenus.
Alors, on va jeter un œil dans le rétroviseur, comme on dit, Raphaël. Et puis, comme ça fait 3 ans et demi que tu m'accompagnes le samedi matin sur RMC, regardons un petit peu ce qui s'est passé durant toutes ces années en matière de tech. Quelles sont les innovations qui ont marqué ces dernières années ?
Moi, je voudrais revenir sur une innovation ou un ensemble d'innovations, moi, qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est la démocratisation du smartphone. Parce que, finalement, il y a l'iPhone, c'est 2007. Donc, ça a maintenant 13 ans. Mais je trouve qu'au cours des, 5 dernières années, il y a eu une évolution absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a encore, mais même 3-4 ans, entre le smartphone, justement, on en parlait en début d'émission avec Jérôme, les smartphones à 300€ étaient franchement très limités.
C'est vrai.
Il fallait mettre beaucoup d'argent, il fallait mettre au moins 700-800€ pour avoir un smartphone acceptable. Et je trouve qu'aujourd'hui, le smartphone s'est considérablement démocratisé. Je rappelle quand même qu'il y a 25% des Français qui n'ont pas de smartphone.
Encore aujourd'hui.
25 ou 20%, enfin, en gros, quasiment un Français sur 5. C'est beaucoup. D'ailleurs, quand on pense souvent.
Oui. Et puis, ça nous calme à nous.
Ça nous calme un peu. Ça calme aussi les gens qui veulent dire il faut rendre l'application tous anti-Covid obligatoire. Ben non, parce que.
Mais il y a plein de gens qui n'ont pas de petits téléphones.
Exactement.
Qui font que téléphoner.
Et d'ailleurs, ils ont tout à fait le droit. Mais c'est vrai que le côté positif, c'est que j'ai l'impression, enfin, je trouve que avoir un bon smartphone. Paradoxal, ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que les modèles haut de gamme ont coûté de plus en plus cher. Mais paradoxalement, avoir un très bon smartphone n'a jamais coûté aussi peu cher.
Parce que oui, on se retrouve avec des téléphones très très chers, mais la démocratisation des smartphones est en route.
Ah oui.
Et finalement, on peut se retrouver pour 200€. Alors évidemment, attention, on n'est pas en train de dire que 200€, c'est pas une somme. Mais finalement, pour avoir un petit ordinateur portable, avec toute cette puissance, toute cette technologie qui fait appareil photo, qui va prendre vos mails, qui va vous permettre de vous connecter aux réseaux sociaux, de regarder des vidéos, c'est révolutionnaire.
C'est incroyable. En plus, parce qu'avant quand même, on va pas se mentir, les smartphones à 200-300€, ils étaient quand même très moches. Aujourd'hui, on a un design qui, alors évidemment, les finitions sont pas les mêmes, les matériaux sont pas les mêmes, mais enfin, on a un design global qui font que quand on prend un café, j'espère qu'un jour on pourra prendre un café ou un verre quelque part, on cache pas.
Tu veux dire dans un restaurant,
dans un vrai restaurant avec des vrais gens autour. J'espère que ça arrivera de nouveau. Avant on cachait un peu son téléphone très moche sous la table, on n'osait même pas trop le montrer. Aujourd'hui, franchement, les smartphones des marques chinoises, notamment d'entrée de gamme, ils sont franchement très très jolis. Accessoirement, le développement aussi des fonctions photo, c'est incroyable ce qu'ont fait les fabricants de smartphones sur la photo. Faut quand même se rendre compte qu'il y a 15 ans, à Noël, on achetait un compact. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Un appareil photo compact, c'est un marché qui n'existe plus. Pourquoi ? Parce que le meilleur appareil photo, et là je vais citer notre ami Adrien Branco de 01net.com, mais à mon avis, qui n'est pas le seul à dire ça, le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a sur soi.
Et oui,
et oui, c'est ça le meilleur appareil photo. Bien c'est sûr. Pas le
celui qu'on va pouvoir dégainer à tout
c'est
moment.
C'est celui qu'on peut dégainer, c'est celui qui fait que la photo peut exister. C'est et, ça, oui. Le... et aujourd'hui, on n'a jamais eu de meilleur appareil photo que le smartphone, qui est un appareil photo qu'on a sur soi et qui en plus, alors fait des prouesses, mais phénoménales. Mmh. Quand on voit la qualité d'image que peuvent proposer des smartphones, et alors OK, en basse lumière, les smartphones à 200-300 euros, c'est pas idéal. Mais franchement, vous faites une photo de famille sur la plage en vacances avec un smartphone à 200 euros. Je vous assure que votre photo, vous allez en profiter. Vous pouvez l'imprimer, il y a aucun problème. Et ça, je voudrais ça, quand c'est même, vrai. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Je trouve ce que j'ai vu presque de meilleur dans la tech autour des 3-4 dernières années.
Alors ça, c'était la première vraie révolution de ces dernières années. Hein, vous vous en doutiez, et c'est pas terminé. Hein. Autre point que tu voulais aborder avec nous, c'est l'explosion des fintechs.
Eh oui. Alors c'est un sujet qu'on a abordé de temps en temps, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de la ringardisation des banques.
Oui. Et des banques historiques.
Des banques historiques, et oui, de nos vieilles banques, entre guillemets, de nos vieilles institutions.
Parce que fintech, c'est l'abréviation de finance et technologie.
Exactement. Et là, c'est vraiment sur les 2-3 dernières années, avec des fintech, des banques en ligne. Alors, les banques en ligne, ça fait un moment que ça existe. Mais on a eu une nouvelle génération de banques en ligne. Je pense à deux acteurs qui sont Revolut et N26, que j'utilise d'ailleurs, j'utilise les deux. Pour un peu comparer les interfaces, ça c'est mon côté geek. Mais là aussi, aujourd'hui, ils ont complètement bouleversé le marché. Alors une partie du marché de la banque, parce que il y a un marché très important qui est celui du crédit.
Oui. Là, le crédit immobilier, par exemple.
Le crédit immobilier, là, vous le faites avec chez votre banque.
Même s'ils nous promettent d'un jour pouvoir le faire,
ça va sûrement arriver.
Ça va arriver.
Ça va sûrement arriver. Mais là, je vais vraiment parler de la banque du quotidien, des opérations du quotidien, mais celles qui vous coûtent aussi beaucoup d'argent, celles qui vont vous coûter. Moi, je me souviens. Je ne vais pas donner le nom de ma banque, mais il n'y a pas si longtemps, je suis parti aux États-Unis pendant quelques jours. J'ai demandé à ma banque comment je pouvais faire pour payer en dollars sans frais. Ils m'ont dit, vous prenez une option à 20 euros. Aujourd'hui, n'importe quelle banque gratuite, c'est-à-dire vous prenez Revolut, vous prenez N26, la carte est gratuite et vous partez partout dans le monde, vous payez sans aucun frais. Et je peux vous dire, il se trouve que j'ai un passé où j'ai travaillé en tant que trader. Mmh. Et je peux vous dire que les commissions et par exemple les taux que vous appliquent ces banques.
Oui, c'est scandaleux.
Oui, mais du coup, les banques, les Revolut, les N26, je peux vous dire qu'ils sont plutôt honnêtes. Mmh. Parce que franchement, les taux de change que j'ai vus sur Revolut, franchement, c'était les mêmes que ceux des professionnels. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est comme sur les smartphones, je parle de démocratisation, mais d'ailleurs, pendant l'émission, je pense qu'en fait, on va parler quasiment que de démocratisation. Parce que c'est ce qui s'est passé au cours des 100 dernières années, c'est la démocratisation de la tech. Et voilà, ces fintech, je trouve, ont radicalement changé la donne pour les opérations bancaires du quotidien. Aujourd'hui, je me souviens, quand je me suis abonné, quand j'ai commandé ma carte Revolut, je suis rentré dans un taxi, je me suis dit, tiens, je vais tester Revolut. En sortant du taxi, ma carte était prête à être envoyée.
Voilà. C'est ça qui est incroyable. Alors que pour créer un compte sur une banque traditionnelle,
je vais pas donner de nom, mais pour créer un compte sur une banque en ligne d'un concurrent français, ça a mis 3 mois.
Oui.
Là, ça a mis 13 minutes, je pense. Voilà.
Voilà, c'est la révolution. En fait, c'est l'accélération de toutes ces démarches lourdes qui sont faites grâce au smartphone et grâce à la tech.
Et j'ai envie de dire, même si on n'a pas totalement confiance, d'ailleurs, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance parce que c'est un marché qui est extrêmement réglementé. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
C'est-à-dire que même si la banque N26 ou Revolut ferme demain, on ne perd pas l'argent qu'on a sur les comptes, bien évidemment.
Mais il y a une utilisation qu'on fait, que beaucoup de gens font, et je trouve que c'est une très bonne utilisation, c'est avoir une petite somme comme ça, toujours sur ce compte.
Bien sûr.
Et puis comme ça, quand on part en vacances, on met une somme, et puis c'est réglé, et puis on s'en sert pour les vacances.
Mais tu sais que moi, tu me donnes envie de tester, j'ai pas encore testé. C'est néobanque. Non.
Ah, faut que tu testes. Franchement, ça, s'il y a une recommandation que je fais, en plus, c'est gratuit. Testez, vous allez voir. Alors, évidemment, si vous en avez au moins un certain usage, mais vous partez à l'étranger, hors zone euro, vous allez avoir des frais. Testez, vous allez voir, vous recevrez une carte. Je cite ces deux acteurs parce que c'est les deux leaders et que franchement, je trouve que c'est les deux meilleurs, c'est les deux plus pertinents. Puis, sincèrement, c'est absolument incroyable. Et puis, vous allez surtout économiser de l'argent.
Voilà pour les fintechs. Autre révolution de ces dernières années, vous l'avez sans doute assisté, justement peut-être pendant le confinement, où là, tout s'est accéléré, c'est la transformation de la télé, tout simplement, oui. Raphaël.
Alors, à deux niveaux d'ailleurs, sur la partie matérielle et sur la partie logicielle. La partie matérielle, parce que, comme les smartphones d'ailleurs, alors là, c'est encore plus incroyable, je trouve, acheter une bonne... Déjà, j'ai l'impression qu'on ne peut plus trouver de mauvaise télé.
C'est vrai, tu as tout à fait raison.
Voilà, il n'y a plus de mauvaise télé.
Même si on trouve des télés à des prix incroyables, et Dieu sait si voilà, on a pu voir, et vous allez voir des promos incroyables sur des télés de 55 pouces à 300-400 euros, oui. On n'a plus de mauvaise
et
télé.
Non, on n'a plus de télé avec un rendu moche, des couleurs catastrophiques, ça arrive mais à la marge. Mais si on reste sur les grandes marques...
On a des super trucs.
On a des super trucs avec des nouveaux acteurs comme Hisense, comme TCL. On a des super télés. Aujourd'hui, avoir une bonne télé, comme tu disais, 55 pouces. Alors la diagonale des télés a augmenté avec les années parce que ça coûte aussi moins cher. 55 pouces, c'est vraiment la taille de référence pour un salon moyen, j'ai envie de dire, classique. Ça coûte pas grand chose. Ça va coûter 600-700 euros pour des très bons modèles. Ça peut descendre bien en dessous. Pour des modèles qu'on va garder quand même assez longtemps. Donc, je voudrais vraiment souligner le fait qu'aujourd'hui, avoir une télé, c'est pas cher. C'est pas cher, on s'entend, évidemment, comme tu le dis, c'est toujours des sommes. Mais le rapport qualité-prix de la télé a complètement changé au cours des, je trouve, 4 dernières années. Et autre amélioration considérable, et là, c'est la partie logicielle, c'est évidemment la télé connectée. Donc, la télé connectée en soi, c'est-à-dire que vous avez des fabricants, quasiment maintenant tous les fabricants, Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense, Philips, qui font que de la télé connectée, ou presque maintenant, c'est-à-dire une télé qui est une sorte d'immense tablette avec des applications, avec des interfaces qui sont d'ailleurs toutes à peu près bien faites, et où on a maintenant des interfaces qui sont quand même... je trouve plus pertinente que ceux de pas mal de box qui ont peut-être une inertie un peu plus importante. Et puis surtout, on a aussi les petits boîtiers, les petites clés, notamment Chromecast par exemple. On a le Chromecast de Google avec Google TV qui vient de sortir, qui coûte quelques dizaines d'euros, qui permet d'avoir une interface de télé connectée en quelques minutes. Et ça veut dire que d'un coup, on se retrouve avec toutes les applications pour téléconnecter qui existent. Et ça, c'est assez incroyable.
Et ça permet d'avoir des designs épurés. On n'est plus obligé d'avoir des boîtes collées à la télé. Aujourd'hui, on peut avoir une télé accrochée au mur, connectée en Wi-Fi et branchée sur le courant, et on a tout ce qu'il faut. On n'a plus besoin d'avoir des appareils en dessous. Et ça aussi, c'est une petite révolution.
C'est une révolution.
Ça consomme moins d'électricité. C'est écologiquement hyper intéressant parce que à terme, ça veut dire qu'on aura moins de plastique, moins de composants électroniques puisque tout est dans la télé. C'est top.
Et oui, le Chromecast, par exemple, moi, le produit que j'ai adoré. Alors, il y a l'Apple TV qu'on connaît maintenant depuis quelques années, mais qui coûte à partir de 200 euros, donc c'est pas donné. Mais sinon, vous avez le Chromecast de Google avec l'interface Android TV, enfin Google TV, ils appellent ça maintenant, qui coûte 70 euros à ce prix-là. Mais c'est
et vous connectez n'importe quelle télé.
On connecte n'importe quelle télé. On a toutes les applis en 4K évidemment parce que c'est Google. On a toutes les applis. Voilà, je trouve ça absolument génial. Et à titre personnel, moi j'ai débranché mes box depuis peut-être 2 ans. Je me sers même plus de ma box et elles sont rangées.
Enfin, la box télé, on va dire.
Le player TV. Enfin, voilà. La box, sinon on n'a plus internet.
Voilà, exactement. Tiens, en revanche, si vous voulez regarder 01 TV, c'est plus pratique avec la box encore.
Il y a encore quelques chaînes.
Box SFR, enfin, Box Orange, Freebox aussi.
Il y a l'appli BFM TV sur les télés connectés où on a 01 TV.
Exactement. On revient dans un instant, Raphaël, pour notre dernière partie de ce week-end des experts vie numérique. On jettera encore un œil du côté du passé et puis après on s'intéressera aux innovations de 2021. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabu.
Raphaël, pour terminer donc ce week-end des experts vie numérique, je te propose de continuer notre petit coup d'œil dans le rétroviseur. Avec ce qui a marqué un peu la tech ces dernières années, depuis que tu fais cette émission, depuis 3 ans et demi. Alors on a parlé de la démocratisation du smartphone, l'explosion des fintechs, de la transformation de la télé. Je pense qu'il faut aussi quand même évoquer quelque chose peut-être de moins positif, mais finalement on se rend compte que les réseaux sociaux apportent des aspects positifs, mais aussi beaucoup de points négatifs. C'est par exemple la décrépitude de Facebook.
Oui, moi Facebook c'est vraiment une entreprise... qui a eu un bouleversement en termes d'image assez incroyable quand même, qui était l'entreprise qui allait relier le monde. Je veux dire, il y a 10 ans d'ailleurs, c'était pile il y a 10 ans, les fameux printemps arabes. Mm-hmm. C'est Facebook aussi qui a permis ça. C'est-à-dire la circulation, j'ai envie de dire, alternative de l'information dans ces régimes où l'information ne pouvait pas circuler.
Exactement, l'information libre en quelque sorte.
Exactement, c'était il y a 10 ans. Et le problème, c'est que cette information libre, qui est évidemment quelque chose d'absolument positif, et de génial, ça a des effets secondaires et cette information parfois elle est manipulée, et c'est là où on est entré dans la deuxième phase d'ailleurs des années 2010 avec les élections aux États-Unis en 2016 où des forces extérieures aux États-Unis ont par exemple un peu essayé d'influencer le résultat de l'élection présidentielle avec l'affaire Cambridge Analytica où on a vu des cabinets chargés d'influencer, de publier des fausses informations sur les visant les électeurs. Alors ceux qui hésitaient à l'époque entre Trump et Clinton, ils étaient il fallait absolument les faire basculer de son côté. Bien et sûr. Pour ça, Facebook. Alors c'est évidemment pas son but initial, mais Facebook a été le théâtre d'une manipulation absolument historique. Et depuis cette affaire, malheureusement, Facebook a du mal. Alors, sans pour autant, d'ailleurs, que ça nuise à son modèle économique, puisque Facebook se porte bien.
Et puis, non seulement Facebook se porte bien, il y a plus d'un milliard d'utilisateurs. Enfin, c'est monstrueux.
Et puis, l'écosystème Facebook se porte très bien.
Voilà. Et puis, il n'y a pas que des aspects négatifs aussi à Facebook.
Non, mais Facebook a...
J'imagine que tout comme moi, tu as retrouvé des vieux potes dont tu avais perdu.
Bien sûr.
Complètement la trace. Grâce à Facebook.
Oui, et puis il y a des fonctions qui...
C'est un annuaire mondial génial, Facebook.
C'est un annuaire mondial, d'où le problème des données, évidemment. Mais il y a aussi des choses formidables, notamment, je pense au groupe. Pour organiser des événements.
Bien entendu.
Aujourd'hui, qui organise un anniversaire sans Facebook, même un mariage sans Facebook. Voilà, c'est essentiel. Mais Facebook a aussi de grandes responsabilités et je trouve qu'ils n'ont pas été à la hauteur sur tout.
Après, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Ils ont créé un nouveau média ingérable, en fait. Ils ont enfanté d'un monstre. Est-ce que je pense qu'il leur faut du temps pour comprendre comment réagir et comment réguler ce média.
Ce que je pense qu'on peut reprocher à Facebook, c'est de ne pas dire ça, de ne pas dire, écoutez,
on ne sait pas trop où on va,
on n'y arrive pas, parce que la vérité c'est qu'ils n'y arrivent
pas. Bien sûr,
ils peuvent pas le faire.
Là, tu as raison. Il y a un manque total de transparence.
Mais parce qu'évidemment, le problème, c'est qu'à partir du moment où Facebook dit je n'y arrive pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les démanteler.
Mais oui.
Il faut dire,
vous n'y arrivez pas,
on va vous y aider. On va dire Facebook d'un côté, Instagram de l'autre, WhatsApp de l'autre, parce que tout ça appartient à Facebook. Et en fait, c'est le succès de Facebook qui fait qu'ils sont dans ces difficultés. C'est parce qu'ils ont des milliards d'utilisateurs si on cumule les différentes applications. Et d'ailleurs, ils ne perdent pas tellement d'utilisateurs Facebook. Alors les gens passent sûrement moins de temps. D'ailleurs, ils vont avoir un problème notamment au niveau de l'âge, c'est-à-dire que les jeunes ne vont plus sur Facebook. Alors, il se trouve qu'ils ont Instagram derrière, la nouvelle vache à lait pour les jeunes. Mais derrière, il y a aussi, alors il y a Snapchat, mais il y a surtout TikTok aussi. Donc, ils ont des concurrents. Mais vraiment, ces dernières années, je trouve que Facebook a été au cœur de beaucoup de scandales. Et je pense qu'il gagnerait à être en tout cas beaucoup, beaucoup plus transparent.
Oui. Alors voilà pour Facebook. Juste un mot quand même aussi peut-être sur la haine en ligne, parce que c'est quelque chose qui est intimement lié. Alors là, ça déborde de Facebook, ça va sur Twitter, sur Snapchat, etc., même sur TikTok.
Oui, mais d'ailleurs, c'est la transition parfaite, parce que la haine en ligne, c'est ce qui va faire, à mon avis, les deux prochaines années en tech.
Tout à fait.
C'est le combat contre la haine en ligne. Et quand je disais, il faut
essayer de légiférer ça.
Alors légiférer, oui. D'ailleurs, je précise quand même,
de réguler.
La loi déjà interdit la haine en soi, en fait. On n'a pas le droit d'appeler à tuer des gens, on peut le rappeler quand même. Donc, il se trouve que dans la rue, la police, la justice, c'est géré, entre guillemets. En ligne, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va changer des lois. Il va y avoir des lois au niveau européen. Facebook, par exemple, les réseaux sociaux devront, par exemple, supprimer des contenus en moins de 24 heures. Il y aura beaucoup de nouveautés. On ne sait pas s'ils y arriveront. On ne sait pas s'ils y arriveront en ne supprimant que les contenus visés. Est-ce qu'ils vont pas trop supprimer? Ils vont pas au contraire porter atteinte à la liberté d'expression? Ça va être le grand débat, je trouve, des prochaines années.
Voilà, qu'on suivra de près, bien sûr, sur BFM Business ensemble et sur Zéro Net.
Exactement. Comment adapter la justice, la police aux réseaux sociaux? C'est extrêmement compliqué et il va falloir mettre la pression sur les réseaux sociaux. À mon avis, ça va être extrêmement important.
Alors voilà, ça c'est quelque chose qui est en train de se profiler, même si ça a commencé, hein, bien sûr. Autre chantier, cette fois-ci, qui a débuté fin 2020, mais qui va se développer en 2021 et puis dans les années qui viennent, parce que c'est un chantier vraiment de longue haleine, c'est la 5G.
Et oui.
Et alors, quand on parle de 5G, il y a évidemment toute une galaxie d'autres sujets, hein, liés à ça, parce que la 5G, bah, c'est le futur réseau des télécoms, comme on a eu la 3G, comme on a eu la 4G. Aujourd'hui, on est obligé de passer à la vitesse supérieure.
Et parallèlement à la fibre.
Avec ce nouveau réseau. Et la fibre aussi, bien sûr.
En fait, j'explique simplement, les antennes relais en 5G, pour fonctionner, elles sont reliées à la fibre. Donc en fait, le déploiement de la 5G dépend évidemment du déploiement de la fibre. Et la 5G, oui, c'est beaucoup plus le futur que le passé, même si on a eu déjà, au cours de l'année 2020, beaucoup de débats. Et j'ai l'impression que la 5G a vraiment cristallisé toute cette nouvelle défiance. D'ailleurs, finalement, c'est aussi une défiance vis-à-vis des nouvelles technologies. Il y a eu beaucoup de choses positives, mais forcément, avec de grands succès viennent de grandes responsabilités, de grandes remises en cause. Et comme la tech change les vies, eh bien forcément, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Et d'ailleurs, ils ont bien raison. Il faut se poser ces questions. Alors, il y a les effets sanitaires, il y a les effets sur notre vie quotidienne, il y a les effets sur nos données personnelles, sur l'espionnage, sur voilà, il y a beaucoup de sujets. Et je pense que la 5G a d'ailleurs un peu injustement entre nous, parce que c'est l'outil, après ça dépend de ce qu'on en fait,
a cristallisé tout ça parce que d'un coup il y a eu une prise de conscience qu'on n'avait pas eu à l'époque de la 4G.
Exactement, et je pense que la 5G a cristallisé ça, indépendamment de ce qu'elle est, c'est-à-dire un moyen de communication comme un autre. Après, il faudra faire attention à ce qu'on en fait, ça c'est important. Et effectivement, c'est le début, en fait, cette année 2021, c'est le vrai début de la 5G.
C'est ça.
Parce qu'on a maintenant quelques villes, quelques grandes villes notamment, qui commencent à avoir des antennes 5G. On a maintenant des offres de tous les opérateurs, d'ailleurs avec des prix. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Quand la 4G est arrivée, ça coûtait beaucoup plus cher. Après, il y a Free qui a cassé les prix. La Free, il casse les prix entre guillemets dès le début. Alors, c'est une 5G un peu différente, c'est-à-dire que c'est des débits peut-être moins importants. Je vais pas aller dans le détail technique, mais c'est des antennes, on va dire, qui s'appuient sur des fréquences proches de celles de la 4G. Donc c'est un peu différent.
Alors ils ont aussi des antennes en 3,5 GHz, hein. On va pas rentrer dans le détail, mais
ils ont aussi des antennes en 3,5 GHz.
Ils en ont peut-être plus que d'autres opérateurs.
Ils en ont plus, à ma connaissance, que Bouygues et SFR.
Ouais, c'est
pour
ça.
Le moment. Ça va changer, ça va
changer,
évoluer,
bien sûr.
Mais effectivement, mais on va dire qu'ils donnent un effet un peu waouh, qui est basé aussi sur ce type d'antenne, mais n'empêche que Free, ils sont dans leur rôle. On se demandait si Free allait casser les prix, bah oui, ils cassent les prix, et donc ça c'est très différent. Et ça marche aussi pour les smartphones, on parlait des smartphones en début d'émission, mais il y a quelques années, les smartphones pas chers, ils étaient en 3G, ils n'étaient pas en 4G, et là, dès le lancement de la 5G.
On a des smartphones 5G
pas chers, à 300 euros. Et c'est là où ça va être beaucoup plus accessible, je pense, pour les gens. Mais après, on va aussi calmer toutes les ardeurs. La 5G, c'est une affaire de 10 ans, hein. Donc, il n'y a aucune urgence à acheter un smartphone 5G, à passer à une offre 5G. Mais dans les 2-3 années, je pense qu'au niveau des débits, ce sera pas mal et ça va être aussi utile pour désengorger la 4G, parce qu'il y a beaucoup d'antennes, notamment dans les villes. Et ça nous arrive à tous. On se connecte à la 4G, on a 4 barres. 4G et pourtant
ça rame quand on va sur internet
et parce qu'on se connecte à l'antenne, mais l'antenne elle-même elle est saturée, elle habite, et donc la 5G va aider pour ça. Donc pour moi le premier bilan de la 5G, ce que j'en attends, c'est pas de révolution, pas du tout, mais une transition utile et un appui solide à ce qu'on a déjà.
Voilà, tout ça est passionnant, bien sûr. On a été très heureux pendant toutes ces années avec Raphaël à vous aider à décrypter toutes ces technologies. Raphaël, alors comme on disait, ce n'est qu'un au revoir parce que évidemment notre carrière et notre job se poursuit. Alors même s'il s'arrête sur RMC, il va se poursuivre sur d'autres médias. Hein,
rappelons-le.
La semaine prochaine, vous retrouverez à cette même antenne et à cette même heure la matinale du week-end de BFM TV.
Et je voudrais quand même vraiment encore une fois te remercier, François, parce que tu m'as mis le pied à l'étrier. D'abord sur 01net, ensuite, on se dit pas adieu, mais quand même, je voulais te remercier.
Oui, bah oui. Un rapport d'étape, on va dire. C'est un checkpoint. Tu sais, comme dans les jeux.
Non, mais franchement, faire ses premiers pas en radio sur RMC. Sur une grande radio nationale.
Ouais, c'était cool.
En pouvant parler pendant une heure de tech.
Ouais, c'est
quand même incroyable. Donc, je voulais encore une fois te remercier.
Et puis, merci aussi à la direction, parce que c'est grâce à eux.